Au fil des mots,
une émission proposée par l'école des mots Marie Lannelong, médiathèque de Lafitte Vigordan.
Et bonjour à tous, bonjour à toutes, nous retrouvons Luc, bonjour Luc.
Bonjour Gisèle et bonjour chers auditeurs.
La médiathèque Marie Lannelong se porte-t-elle bien ?
Oui, l'école des mots Marie Lannelong se porte à merveille. On est en plein dans le cycle d'animation de fin d'année. Et si tu veux bien, Gisèle, je vais te dire deux mots de ce que l'on a organisé la semaine dernière, qui était une rencontre avec un auteur de bandes dessinées et d'albums pour enfants.
Oui, justement. Comment ça s'est passé ?
Eh bien, ça s'est très bien passé. Cette dame qui est très jeune, très sympathique et qui a beaucoup de charisme, Sarah Popardin, dite Nouche, a passé la journée avec nous. Le matin, on a reçu les enfants des écoles maternelles qui sont venus dans les locaux de la médiathèque. Et ils ont été ravis d'écouter l'histoire, de voir une aquarelle se réaliser sous leurs yeux. L'après-midi, ce sont les plus grands du collège du CDI du Fousseret qui ont aussi joué le jeu en imaginant des aventures du héros de Sarah, qui est un petit chien un peu loufoque, Pongo. Et le soir, ce sont les adultes qui sont venus rencontrer l'illustratrice et qui ont pu échanger, découvrir son travail et se faire dédicacer ses ouvrages. Mmh. En conclusion, une excellente journée où on a passé de bons moments avec les enfants, les ados et les adultes.
Eh bien, bravo! Le programme à venir, il y aura un café-théâtre à Lafitte.
Voilà, le 28 octobre, c'est bientôt, une soirée café-théâtre avec une pièce qui s'intitule « Les voisines » qui est jouée par la compagnie Abisto. C'est une compagnie, je dirais, semi-professionnelle qui a son siège à Castanet-Tolosan. La pièce, c'est une création puisqu'elle est écrite et mise en scène par Nathalie Albar spécialement pour cette troupe. On avait d'ailleurs reçu cette troupe l'an dernier avec une pièce qui s'appelait Funérarium, qui avait rencontré un certain succès. Alors deux mots sur l'histoire des voisines, c'est pour mettre un petit peu l'eau à la bouche. Ça se passe dans un immeuble de cité au siècle dernier. Six voisines se retrouvent un peu par hasard chez Pamela Coiffure Boutique à domicile.
Oula.
Rien que le titre. Et tout cela autour d'une mise en plis, bien sûr, qui est inachevée. Alors on imagine les bigoudis et tout ce qu'il y a. Et il y a aussi un gros problème, c'est que le chat de la maison a disparu en plus.
En plus.
Au fil du déroulement de la pièce, tout se mélange, les générations, les cultures. Et l'appartement, il agit un petit peu comme une tour de contrôle. On imagine qu'à partir de cet appartement, on voit tout, on sait tout, on se raconte tout.
D'accord.
Comme dirait d'ailleurs Mardia Dolores, qui est un des personnages de la pièce, « Nous, on ne médit pas, on s'intéresse.
» Oui.
Voilà, donc je pense que s'il y a de quoi passer un bon moment.
Oui.
Dans une ambiance café-théâtre, c'est-à-dire que le public est assis autour de petites tables sur lesquelles il aura auparavant pu déguster des assiettes de tapas, boire avec modération quelques verres de bon vin rouge de la région et attendre comme ça l'arrivée des comédiens.
Mm-hmm.
L'entrée est fixée à 5 euros. Il faut savoir que la totalité des recettes d'entrée est reversée à la troupe qui vient puisqu'ils ne prennent pas de cachet.
Oui.
La seule chose, c'est que pour les repas, il est préférable, enfin les assiettes de tapas, il est préférable de réserver auparavant.
Mm-hmm.
Si possible, un petit coup de fil, deux numéros de téléphone, si vous avez de quoi noter, 06 15 33 19 36 ou alors 05 62 01 36 49. Enfin, rassurez-vous, si vous ne réservez pas, on ne vous laissera pas dehors.
Bien. Alors ça, c'est pour le 28 octobre. Et à partir de quelle heure il faut venir ?
On ouvre les portes à partir de 19h. Mmh. Sachant que la pièce est à 21h, ça laisse largement le temps
de grignoter,
de papoter et de se préparer à passer ce bon moment de théâtre.
Belle soirée proposée pour ce 28 octobre. Mais bien sûr, les auditeurs de Radio Galaxy l'entendront de temps en temps sur l'antenne dans nos informations et dans notre samedi-dimanche. Il y a d'autres animations pour la fin du trimestre.
Un petit rappel peut-être des animations, on en reparlera dans les émissions suivantes. Le 26 novembre, traditionnellement, c'est le marché de Noël des créateurs, où on ne rencontre que des créateurs, il n'y a pas de revendeurs, c'est-à-dire des gens qui vendent leur propre production. Et le 17 décembre, Lafitte en livre, notre première fête du livre et de l'image, qui est en train de prendre... de l'ampleur, puisque plus de 40 auteurs ont répondu présent et on commence à se demander comment on va faire pour pousser les murs de la salle des fêtes.
Oui.
C'est toujours très désagréable de refuser à quelqu'un, donc on essaiera quand même de se serrer un peu pour que tout le monde puisse trouver sa place. Donc on en reparlera.
Bien,
mais rendez-vous, notez déjà, 17 décembre.
Voilà, 17 décembre, à partir de quelle heure ?
10h jusqu'à 18h. L'entrée est gratuite et... vous aurez de quoi même trouver de belles idées pour des cadeaux de Noël si vous êtes à court. Parce qu'il y aura tout un éventail. Il n'y a pas que de la littérature de romans. Il y aura des livres de cuisine, il y aura des livres de photos, il y aura des bandes dessinées, il y aura des livres de comportement, coaching. Il y a de tout. D'histoire aussi.
Voilà. Superbe.
Mais on en reparlera.
Oui, bien sûr, on en reparlera. Donc ça, ça sera pour le 17 décembre, pour cette première fête du livre. On va passer maintenant peut-être au coup de cœur littéraire du mois d'octobre. C'est un spécial BD que vous nous avez choisi.
La BD fait aussi partie de la littérature.
Oui.
On n'est pas obligé de lire des romans de 400 pages pour s'instruire, se divertir et passer de bons moments. Donc j'ai pensé qu'on pouvait mettre en avant cette fois-ci la bande dessinée. Avec quatre séries qui me semblent intéressantes, qui amènent quelque chose et qui couvrent un large public. Une petite précision, je suis amateur de BD, je dirais, classiques. C'est-à-dire des BD avec des cartouches bien alignées qui se suivent. Je ne suis pas réceptif à toutes ces BD où il y a des pages, on ne sait plus dans quel sens il faut les lire. Bon, c'est personnel.
Oui.
Donc les quatre que je vais vous présenter sont des BD dites classiques dans leur structure et leur réalisation. La première, ça s'appelle « Dents d'ours ». Le titre n'a rien à voir avec le contenu. C'est une BD qui, par le biais de rétrospectives dans le passé, met en avant l'histoire de trois jeunes gens. Et puis de l'amitié un petit peu exceptionnelle qui les lie tous les trois. Il y a Anna, qui est une jeune fillette intrépide. Il y a Werner et Max, qui sont deux garçons. Tous les trois vivent en Silésie, dans les années 30. Et à ce moment-là, la Silésie, elle est polonaise.
Oui.
Mais pas loin de chez eux, il y a la montée du nazisme qui est en train de grossir de plus en plus. Et puis un beau jour, le fâcheux personnage Hitler décide d'annexer la Silésie, qui devient donc allemande. Alors Werner et Anna sont eux d'origine allemande. Et ils sont subjugués par le parti nazi et par les Hitlerjungen, excusez l'accent, les jeunesses hitlériennes qui ont été créées parce qu'ils y voient l'occasion de réaliser leur passion, c'est-à-dire de piloter, de voler.
Mm-hmm.
Par contre, le pauvre Max, lui, il rêve aussi de piloter, mais il a un gros handicap pour ce moment-là. Il est d'origine juive. Et lui, il n'apprécie pas du tout ce qui se passe en Pologne.
Eh oui.
Alors on comprend donc très vite que la guerre qui va arriver va les séparer et qu'ils ne vont pas forcément combattre dans les mêmes camps. Il y a de belles surprises qui vont arriver suite à ça. On s'y attend un peu, mais on est quand même surpris par la façon dont ça se passe au fil des pages. Il y a des dessins de bonne qualité. On suit au fil des tomes la vie de ces trois enfants qui sont devenus grands, bien sûr, à qui la guerre va bouleverser leur existence. C'est à la fois un drame psychologique, une aventure réaliste, une histoire d'espionnage aussi. Et les deux auteurs, le récit de Yann Pelletier et d'Alain Henriette qui a fait les dessins, se caractérisent aussi par le soin documentaire que l'auteur a porté à l'ensemble de l'histoire, que ce soit aux détails techniques des avions de la guerre mondiale ou à la réalité des événements historiques.
Mmh.
Actuellement, il y a 5 volumes qui sont sortis. Chacun porte un nom. Le tome 1, c'est Max. Le 2, Anna. Le 3, Werner. le 4 America Bomber et le 5 Eva. Une excellente bande dessinée qui permet aux enfants d'approcher la réalité de la dernière guerre.
Oui.
Aux adultes de réfléchir un petit peu et de remettre en mémoire ce qui s'est passé. Et tout cela avec le côté ludique de la bande dessinée.
Oui.
Donc à conseiller à des enfants et à des jeunes adolescents et puis aux adultes aussi.
Oui. Puisqu'aujourd'hui, c'est presque à dire un spécial BD, on va passer au deuxième choix que vous avez fait pour jeunes et adultes d'ailleurs, les enfants de la résistance. Vous êtes resté dans le même thème.
Oui, j'ai trouvé amusant de garder pour cette deuxième série le même thème historique, mais vu de l'autre côté. Cette fois-ci, ce sont trois enfants qui, en pleine débâcle de juin 40, assistent à ce qui se passe. Ils sont deux dans un village, ils s'appellent François et Eusèbe. Et en plus, arrive dans le village une jeune Belge qui est immigrée, qui a fui l'armée allemande, qui les rejoint, qui s'appelle Lisa. Et ces trois enfants, bien qu'ils soient jeunes et tout, qu'ils aient l'insouciance de la jeunesse, ils décident quand même de faire quelque chose. Ils disent « c'est pas possible, on peut pas laisser faire ça ». Et ils vont mener plusieurs actions qui seront pas importantes, mais autant de petites graines qui finalement amènent de grands changements dans les états d'esprit.
Oui.
Et c'est comme ça que l'histoire va commencer. Le texte est de Vincent Dugommier, il est très facile à lire, précis. Et en plus, il est servi par un dessin, une iconographie agréable de Vincent Herz, qui mélange à la fois le réalisme et la vie quotidienne avec beaucoup de justesse dans les détails historiques. Cette bande dessinée, en plus de nous raconter une belle histoire avec tout ce qu'il faut dedans, de l'aventure, de l'action, de l'intelligence, du courage, même de l'amitié, nous invite surtout, je pense, à réfléchir. Il y a plein de détails qui, encore aujourd'hui, sont sujets à discussion. Par exemple, il nous propose de réfléchir au fait qu'il ne faut peut-être pas confondre Allemands et nazis. Et encore aujourd'hui, il y a des personnes qui ont du mal à faire la différence parce que tous les citoyens allemands n'adhéraient pas aux idées que le pays voulait leur imposer. En plus, un petit détail qui est important, à mon avis, c'est qu'en fin de chaque album, il y a un dossier de 6 ou 7 pages qui lui revient sur l'histoire troublée de cette époque. Là, avec précision et des faits relatés tout à fait réels. Voilà, il y a 3 tomes qui ont été édités pour l'instant. Si vous avez envie aussi de vous replonger dans cet autre côté de la dernière guerre, c'est aussi une bande dessinée, enfants, jeunes et adultes.
Comment s'appellent les tomes ?
Le premier s'appelle « Première action ».
Oui.
Le deuxième, « Première répression ».
Oui.
On sent que ça se corse un peu.
Oui.
Et le 3, « Les deux géants ».
Pour votre troisième choix, là aussi c'est toujours « Jeune et adulte », « Château Bordeaux ». J'ai peur que l'on parle de vin là.
Ah, c'est... on fait plus qu'en parler. Alors on change complètement. Là, on est dans un contexte beaucoup plus léger, beaucoup plus agréable. Cette série m'a beaucoup plu, justement, de par le côté plaisant, agréable à lire, où on apprend en plus des tas de choses. Bon, c'est un petit peu ce qui me plaît aussi dans certaines bandes dessinées, c'est que on n'en ressort pas aussi bête que quand on a commencé à les lire. Alors bien sûr, Gisèle, tu as deviné, Château Bordeaux, c'est une histoire qui tourne autour du vin.
Eh oui.
Alors deux mots sur le synopsis. À la suite du décès de leur père, les trois enfants d'une famille qui s'appelle Baudricourt héritent de l'exploitation familiale vinicole. C'est un domaine du Médoc. Les deux frangins, eux, ils voudraient tout bazarder, tout vendre, récupérer les sous, et parce que le vin ne les intéresse pas. Mais c'est sans compter la détermination de leur sœur, qui, bien que vivant aux États-Unis, arrive à Bordeaux pour le décès du père et qui finalement, croyant poser ses valises pour quelques jours, décide de rester. Elle voit un petit peu dans l'héritage qu'elle va faire l'opportunité de rebâtir sa vie parce qu'elle se retrouve sur les terres de son enfance et finalement, elle préfère faire une croix sur sa vie américaine.
Oui.
Après, il va se passer des tas de choses, bien sûr. Ce dont on se doute quand on voit le titre, c'est que le vin est au cœur de l'intrigue.
Oui.
C'est une presque une saga familiale. C'est quelque chose, je pense, qui peut plaire à ceux qui connaissent le vin, mais à ceux qui ne le connaissent pas, parce que en même temps, on découvre plein d'éléments sur ce monde-là, qui est quand même un monde un petit peu à part. Elle a même été comparée, cette saga, au Maître de l'Orge, si ça vous dit quelque chose. Mais celle-ci se passe au cœur du Médoc.
D'accord.
Donc les auteurs sont Corbeyran et SP. Corbeyran, lui, il a su mélanger la fiction, la réalité dans ses dialogues, alors qu'SP, lui, dans ses dessins, a une précision d'orfèvre, sait décrire parfaitement ce monde-là. Donc en conclusion, j'ai trouvé qu'il y avait de belles images, de superbes couleurs, des explications techniques claires. On comprend finalement par quelle alchimie on parvient à produire deux grands crus.
D'accord. Combien de tomes pour ce choix ?
Il y a 8 tomes. Le domaine, l'œnologue, l'amateur, les millésimes, le classement, le courtier, les vendanges, le négociant. Oui. C'est surtout toute la saga. On s'attache au personnage. C'est amusant, cette Alexandra. On s'attache à elle et on a envie de voir et on attend... Le tome suivant, presque avec impatience, en se disant, mais bon, et en croisant les doigts, en se disant, on espère qu'elle va y arriver, parce qu'évidemment, les embûches ne manquent pas.
Et voilà. Je l'imagine.
Un bon moment, de nouveau, autour du vin.
Dernière sélection que vous avez fait, l'Arabe du futur.
Alors là, encore un tout autre sujet, une BD qui, je pense, est très connue aussi de par son auteur, puisque c'est Riyad Satouf. Riyad Satouf a décidé d'écrire sa vie sous forme de BD. Un roman, cette fois-ci graphique, au lieu de le faire avec des mots. Il nous explique au fil des années ce qu'il a vécu dans la Libye de Kadhafi et puis après dans la Syrie d'Hafez el-Assad. Il est né en 78 d'un père syrien et d'une mère bretonne. Comme quoi, tout arrive. Il a d'abord grandi à Tripoli, en Libye, où son père était professeur. Issu d'un milieu pauvre, féru de politique, Abdel Razak Satouf, le père, c'est le père qui est issu d'un milieu pauvre, élève son fils Riyad dans le culte des grands dictateurs arabes. Pour lui, ils étaient symboles de modernité et de puissance virile. En 84, la famille déménage en Syrie, et rejoint le berceau de la famille Satouf, un tout petit village près de Homs. Là, Riyad va passer quelques mauvais moments parce qu'il a un gros handicap, c'est que pour un arabe, il est blond. Il devient un peu la tête de turc de ses cousins. Et en plus, il était habitué à la vie dans la ville. Et là, il découvre la vie paysanne traditionnelle. Mm-hmm. Mais malgré tout, son père n'a qu'une idée en tête, c'est que son fils... aille à l'école syrienne bien sûr, et devienne quand même un arabe moderne. Toute la série est construite autour de cette vie et on va découvrir petit à petit tout ce qui se passe, toute l'évolution politique, etc., qui se passe dans ces pays qui pour nous sont lointains mais parlent encore beaucoup aujourd'hui. La BD elle-même est intéressante parce qu'on passe... de scènes graves à des scènes cocasses. Et il faut reconnaître que Riyad Satouf a un sacré talent de conteur et qu'il est très fin observateur. Donc c'est une série, on peut dire, qui conjugue la drôlerie, l'intelligence, la tendresse. Je pense que là où Riyad Satouf a fait fort, c'est que c'est la meilleure réponse à l'obscurantisme et à la violence qu'il pouvait faire.
Tout à fait.
Voilà, L'Arabe du futur donc, est publié en 3 volumes. Qui correspondent à des périodes. Le premier, c'est 1978-84. Le second, 84-85. Le troisième, 85-87. La suite est en préparation. Je pense qu'il va continuer comme ça jusqu'à arriver à l'époque actuelle. Peut-être plus destiné à un public adolescent et adulte. Là aussi, on prend beaucoup de choses quand on lit cette bande dessinée. L'Arabe du futur de Riyad Satouf.
4 sélections pour jeunes et adultes.
Et adultes, oui. Et maintenant, notre coup de cœur musical du mois. Ben, le coup de cœur musical, vous avez dû entendre notre générique, un petit bout de musique très bref.
Oui.
On ne vous a jamais dit qui c'était.
C'est vrai.
En fait, c'est un artiste qui s'appelle Saint-Germain, qui fait de la musique électronique. Donc, je pensais qu'aujourd'hui, on lui devait quand même un petit coup de cœur.
Tout à fait.
Pour vous dire qui il était.
Oui.
Et on va vous faire écouter en entier cette fois-ci un morceau, un de ses plus célèbres. Je vous dirai, donnerai le titre tout à l'heure. Avant, quand même, deux mots sur ce monsieur qui n'est pas un petit jeune, puisqu'il a commencé à enregistrer dans les années 80. Je vous disais, c'est quelqu'un qui fait de la musique électronique. Certains critiques ont dit de lui qu'il faisait une musique érudite, sensuelle et originale.
Ah oui.
C'est une référence. Il s'est toujours distingué par son art, sa façon de mélanger les machines et les instruments. Machines, ordinateurs, bien
oui.
sûr, hein,
oui.
et les instruments. Et en même temps, de piocher dans ses racines ou dans les racines de la musique et dans la modernité actuelle. Un de ses derniers albums, d'ailleurs, est inspiré de musique africaine.
Oui.
C'est très typé. C'est une musique très spéciale. Il a aussi une grande passion pour le blues, le jazz. Et comme je vous le disais, puisque je parlais de musique africaine, de musique noire. Et tout ça, toute sa musique, on la reconnaît parce qu'elle est scandée par des boucles de voix.
Oui.
Qui sont mélangés et qui reviennent. Alors bon, aujourd'hui, on va vous faire écouter un morceau, je vous l'ai dit, en entier, un des plus célèbres, qui a été enregistré en 1995, qui a été repris dans le monde entier, puisque même les Rolling Stones l'ont repris dans leurs concerts.
Ah oui.
Et ce titre, c'est Alabama Blues, un morceau de Saint-Germain, l'auteur de notre générique.
Ben, on se retrouvera le mois prochain.
Mais j'espère bien, Gisèle, et j'espère que tous les auditeurs seront encore là. On aura encore plein de choses à découvrir, beaucoup d'animations à présenter, et j'espère que tout le monde passera un agréable moment, ce qui est le cas pour moi. Donc je vous remercie d'être à l'écoute de Radio Galaxy et de bien suivre notre émission Au fil des mots.
I'd better back home. don't stop fighting. It's gonna be a war pretty soon. They're always on the stove.
Proposé par l'école des mots Marie Lannelong, médiathèque de Lafitte Vigordagne.
Retrouvez-nous le deuxième mardi de chaque mois à 18h et le dimanche qui suit à 10h30 sur les ondes de Radio Galaxie 98.5 FM.